Esprit libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
Il est 8h42 sur l'antenne de Radio Classique. Esprit libre avec Cécile Cornudet et Jean-Marie Colombani, mais également avec Laurent Saïm, ma consoeur Laurent Saïm d'LCI et qui est l'une des meilleures spécialistes de la vie politique américaine. Bonjour Laurence.
Bonjour Renaud, comment allez-vous?
Mais très bien, mieux que Trump en tout cas. Qu'est-ce qu'il va se passer justement pour le président américain? Quel est le calendrier? Est-ce que cette inculpation, il devra comparaître mardi devant le juge à New York, est-ce que cette inculpation est la première d'une longue série?
Alors vraisemblablement oui Renaud, c'est ce que je vous disais hier sur l'antenne de Radio Classique. En tout cas ce qui va se passer c'est que normalement, et vous le savez avec Trump tout est possible, normalement Trump doit comparaître mardi devant le juge de New York, on connaît l'heure, ce sera 20h15 heure française. Le juge, et je vous donne évidemment ce qui se passe selon la loi de New York, le juge en ce moment est en train de publier un avis de recherche. Parce que Trump désormais est considéré comme un suspect et il doit être devant le tribunal, devant une cour de justice au plus vite, et ce sera donc mardi. À ce moment-là, quand il va arriver mardi, eh bien, personne n'est au-dessus de la loi selon la justice américaine, et donc Donald Trump, on va lui prendre ses empreintes digitales, on va prendre sa photo que vous voyez pour n'importe quel coupable, et ensuite il va apparaître devant un juge où là, il a le droit de dire je suis coupable ou je ne suis pas coupable. Le juge, encore une fois, va lui expliquer ses droits, va l'inculper officiellement, et là, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, soit le juge considère que Donald Trump est un danger absolu pour l'Amérique, et à ce moment-là, le juge a la possibilité de mettre immédiatement Donald Trump en prison, soit Donald Trump est libéré peut-être avec un bracelet électronique qu'il devra porter chez lui, ou libéré avec son passeport confisqué en attendant la date du procès. Ça, c'est la loi New York et ça va se passer normalement pour Donald Trump mardi.
Alors, vous pouvez être en prison, vous pouvez être inculpé, mais vous pouvez quand même aux États-Unis vous présenter à l'élection présidentielle. Est-ce que cette inculpation signifie la fin du Trumpisme ou au contraire, cette inculpation peut finalement être une chance pour Donald Trump pour remobiliser, si je puis dire, sa base électorale?
Alors, d'ores et déjà, je peux vous dire que la base électorale de Donald Trump est extrêmement mobilisée. Et juste avant toute cette histoire, je regardais un sondage qui a été fait par nos confrères de Fox News il y a deux jours. Si les primaires républicaines avaient lieu aujourd'hui, eh bien Donald Trump est à 54%. Son adversaire le plus sérieux, c'est le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui lui est à 26%. Donc Donald Trump, s'il y avait des primaires aujourd'hui, il serait le candidat officiel du Parti républicain. Et depuis ce qui s'est passé cette nuit, donc officiellement cette inculpation qui est maintenant criminelle et qui va lui être notifiée. Ce qui est très surprenant, c'est que les républicains sont tous unis pour défendre Donald Trump. L'ancien vice-président de Donald Trump, Mike Pence, a fait une interview hier soir à nos confrères de CNN pour dire tout ce qui se passe autour de Donald Trump, c'est scandaleux, c'est une chasse aux sorcières, c'est ce que les démocrates veulent. Et tous les républicains disent cela, ils sont en ce moment tous unis pour défendre Donald Trump. C'est vraiment important parce que ça veut dire que Donald Trump reste toujours le leader du Parti républicain.
Merci Laurence, merci d'avoir été en line ce matin dans Esprit libre. Laurence Saïm, l'une des meilleures spécialistes de la vie politique américaine et que nous retrouverons sans aucun doute tout au long de la semaine prochaine. Retour en France et retour dans ce studio avec Cécile et Jean-Marie. On va parler d'un autre président, le président Macron. On a ces images dans les Hautes-Alpes hier. On voit un président, effectivement, qui est là, qui est présent sur le terrain, mais il est très isolé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas aucun contact avec la population. Il arrive en hélico, on prend une autre route pour éviter toute manifestation. On a aussi un Macron inflexible. Qu'est-ce que vous retenez, finalement, Cécile, de ce déplacement hier dans les Hautes-Alpes pour présenter son plan eau?
Je retiens qu'il avait besoin de montrer qu'il pouvait sortir de l'Élysée, parce qu'il commençait à avoir une petite musique sur la solitude du président, et c'est vrai que c'est très bordé, ce genre de déplacement. lentement, mais malgré tout, il y va, il y est, il parle aux journalistes, il y a quelque chose de vivant, il a besoin de montrer qu'il est encore en mouvement. Et moi, je pense qu'il y a deux objectifs à ça. C'est que d'abord, sur la retraite, il veut gagner du temps.
Oui.
On voit bien que d'ici le 14 avril, décision du Conseil constitutionnel, il a décidé de ne pas bouger sur le fond et de continuer le bras de fer avec les syndicats. Mais quand on gagne du temps, il faut l'occuper. Donc il faut, pour faire un peu baisser la pression, montrer qu'on est sur d'autres sujets. Et puis son sujet à plus long terme, c'est comment on remet en marche le quinquennat, parce que même si la réforme des retraites est adoptée, on voit bien qu'elle a fait la démonstration au Parlement que c'était ingouvernable. On voit bien que la Première ministre est très affaiblie. On voit bien qu'il y a plein de sujets qui commencent à passer à la trappe. Donc comment Emmanuel Macron, derrière cette réforme, peut continuer à réformer, eh bien c'est son gros sujet. Donc là, il voulait montrer qu'au moins sur l'eau et l'écologie, il pouvait faire des choses.
Et Jean-Marie, le Conseil constitutionnel, Cécile en faisait référence à l'instant, 14 avril, c'est le juge de paix en quelque sorte.
De facto, ce sera un petit peu le juge de paix, parce que selon la décision qui sera prise, évidemment, le conflit peut prendre une tournure ou une autre. Avec plusieurs hypothèses, tout le monde considère qu'il va y avoir une invalidation quelconque, mais l'ensemble peut être validé, on n'en sait rien.
Ouais.
De ce point de vue-là, on ne sait pas quel sera où le Conseil constitutionnel mettra le curseur. Il y a aussi l'hypothèse d'une invalidation partielle, ça c'est la référence par exemple au fameux fichier senior, et puis il y a aussi l'hypothèse d'une invalidation. Alors là, ça ne pose aucun problème, parce que quand vous êtes invalidé sur un article d'un texte, vous retirez le texte, mais vous appliquez le reste des articles. Donc l'article 7, le fameux article sur le changement de l'âge de la retraite, ne serait pas atteint. Il y a une autre hypothèse encore, qui est l'hypothèse où on invalide la procédure. Et on met en cause la procédure qui a été choisie, c'est-à-dire le passage par une loi de financement de la Sécurité sociale. Et là, on ne sait pas non plus si c'est cela, quelles conséquences cela peut emporter. Ça, c'est une première partie. Mais l'autre partie de ce qu'a à faire le Conseil constitutionnel n'est pas moins importante. C'est d'apprécier la validité de la demande de référendum. Donc, puisqu'il y a eu déjà plus de 250 signatures de députés, donc vraisemblablement, elle sera admise. Mais si elle est admise, s'enclenche un processus de long terme, disons sur 9 mois, à travers lequel il faut recueillir 4,5 millions de signatures,
ouais,
avant que la suite de la procédure continue. Et là, vous avez la certitude d'un feuilleton qui continue, parce que, in fine, imaginons que tout cela aille au bout et qu'il y ait un référendum et que donc les Français votent contre, vous aurez eu une loi appliquée ou en voie d'application et une invalidation par un référendum. Donc, Le pouvoir n'est pas au bout de ses peines.
Le pouvoir n'est pas au bout de ses peines, Cécile. Et vous parliez aussi du gouvernement d'Elisabeth Borne et d'une Elisabeth Borne très affaiblie. Mercredi, vous avez signé un édito qui était assez étonnant sur gouvernement, l'autre pourrissement. C'est quoi? On a sorti effectivement les flingues du côté des ministres. On se regarde en chien de faïence. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, il y a une atmosphère absolument épouvantable. Tous les ministres qu'on rencontre en ce moment sont complètement déprimés. Pourquoi? Parce que à la fois, je pense que ça part quand même de l'Élysée. On voit bien qu'Emmanuel Macron s'en remet à Elisabeth Borne pour trouver une sortie de crise avec les syndicats. Et en même temps, il a des petites phrases à son émission de télévision ou hors micro, qui montre qu'il est prêt à prendre ses distances avec elle, et donc ça la fragilise beaucoup. Pendant son émission, il a dit « j'espère qu'elle y arrivera », comme,
ouais,
si c'était pas une évidence.
C'est pas effectivement terrible comme encouragement.
Voilà,
quand même,
c'est terrible. Et il y a des petits off, comme on dit dans la presse, qui sont bien plus terribles que ça. Et ça veut dire quoi dans la tête des ministres? C'est que en gros, elle est un peu en sursis, que ce soit pour un court terme ou autour du 14 juillet. Et du coup, ça ouvre la compétition de ceux qui rêvent de prendre sa place. On voit Gérald Darmanin très actif, Bruno Le Maire très actif, enfin plusieurs comme ça, et ça met une ambiance absolument épouvantable au sein du gouvernement. Donc c'est un petit peu contre-productif dans la période.
Jean-Marie, elle est pour vous condamnée à
vraisemblablement, mais ça, elle est depuis l'échec du vote, puisque le gouvernement a dû renoncer au vote de la loi sur les retraites, faute de pouvoir faire une majorité. Donc c'est là qu'est l'échec principal de la Première ministre. Et donc, après, c'est à Emmanuel Macron d'apprécier. Simplement, s'il avait été au bout de sa logique qui le conduisait à un accord en bonne et due forme avec les Républicains, il l'aurait nommé, il s'apprêterait ou aurait réfléchi à un Premier ministre de droite, ouais, clairement de droite. Ce qui était le cas d'ailleurs dans la première phase, dans la compétition avec Elisabeth Borne, il y avait aussi une candidature de droite qui était envisagée en la personne de Madame Vautrin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage-là. Donc, mais sauf que l'alliance, on ne la voit pas venir et on ne la verra pas venir compte tenu de l'état des Républicains.
Mais ça veut dire Jean-Marie.
Donc voilà, il est devant cette difficulté.
Pour revenir à Elisabeth Borne, mercredi, elle reçoit les syndicats. C'est du qui tout double.
Non, c'est pas du qui tout double. L'obsession de cette rencontre, ce sera le temps qu'elle dure. Parce que les syndicats vont venir avec, dans leur escarcelle, on va parler des retraites. Et Elisabeth Borne vient avec l'idée, mais regardez, il y a 15 sujets qui valent la peine d'être travaillés, notamment tout ce qui concerne d'ailleurs la réflexion sur le travail. Mettons-nous au travail. Et donc, tout ça sera fonction de l'état d'esprit des uns et des autres. Mais si au bout d'une demi-heure, tout le monde sort, évidemment, ce sera un échec retentissant et une manière pour les syndicats d'obtenir de relancer le mouvement. Si en revanche il y a une séance de travail qui se passe en relativement bonne entente, ben on pourra penser que les uns et les autres cherchent une sortie qui ne soit pas une sortie strictement conflictuelle, mais on n'en est pas là.
Il y a un danger pour les syndicats ou pas mercredi ?
Oui, forcément, de montrer qu'eux-mêmes ont du mal à évoluer, parce que, par exemple, Laurent Berger dit beaucoup, le gouvernement ne bouge pas sur les 64 ans, mais lui-même ne bouge absolument pas non plus sur l'âge de la retraite. Donc, il y a ce danger-là de tourner un petit peu en rond. Et globalement, si on se met du point de vue du gouvernement, la séquence, elle est un petit peu plus positive qu'elle n'était ces temps derniers. La dernière mobilisation a été inférieure, il y a ce début de dialogue qui est renoué, donc il y a peut-être le début de quelque chose de positif qui peut piéger les syndicats. Si tant est qu'effectivement, comme dit Jean-Marie, ils ne claquent pas la porte et ne trouvent motif à remobiliser, parce que le lendemain, jeudi, il y a une nouvelle journée d'action. Donc tout ça est encore extrêmement fragile, mais je pense plutôt positif quand même pour le gouvernement.
Et puis, c'est une date risquée, hein, la veille d'une nouvelle journée de
En même temps, juste la veille, ils n'ont pas tellement le temps non plus de mobiliser tout le monde.
Et puis il y a la question de la CGT, parce que c'est en ce moment se joue la CGT, l'après Martinez.
Oui, ça pouvait être l'espoir d'ailleurs.
Jean-Marie.
Ça pouvait être l'espoir du gouvernement, parce qu'on voit bien que là, il y a eu une bataille frontale à la CGT. Entre, disons, ceux qui sont quand même, entre guillemets, pour la CGT réformiste, c'est-à-dire la tendance Martinez, et puis ceux qui sont beaucoup plus radicaux. On a entendu des déclarations hallucinantes de certains responsables de fédération pendant le conflit, parlant de guerre d'ailleurs, et parlant de mettre l'économie à genoux, enfin...
Ah bah c'est avec, chaud en ce moment, voilà. Même sur place, hein. Donc, c'est pas fini.
Donc il y avait vraiment deux tendances fortes, et si vous mettiez la barre sur les radicaux, et comme on pensait que ça pouvait arriver compte tenu de la défaite de Philippe Martinez lors du vote sur son rapport d'activité, ce qui n'est rarement arrivé ou presque jamais arrivé à la CGT, à ce moment-là, on pouvait penser que le front uni syndical pourrait se dissocier.
Oui.
Parce que la CFDT ne donnera jamais la main à des radicaux.
Oui.
Donc là, si la CGT trouve une formule de synthèse qui ne soit ni l'un ni l'autre, à ce moment-là, ça prive le gouvernement d'une arme possible.
Et c'est peut-être ce qui va se passer avec Sophie Binet.
Oui, a priori, ce serait Sophie Binet, effectivement, qui
On n'en parlait pas il y a encore quelques jours, hein, les
sorties
du chapeau.
Non, et qui est une solution, donc ni l'un ni l'autre, comme on voit souvent dans les conflits comme ça, une troisième possibilité qui est intermédiaire, je dirais, qui est une personnalité qui n'est pas radicale et qui est en même temps forte. Et donc, en plus, c'est une femme, elle est jeune, elle a plein de talents et ça peut être finalement une bonne sortie pour la CGT elle-même.
Une dernière question, il nous reste une minute. Il y a eu un sondage au Doxa qui était assez intéressant. 66% des Français sont toujours pour la mobilisation. 6 sur 10 demandent un remaniement. 8 sur 10 sont pour faire une pause, comme le dit Laurent Berger. Quel est le chiffre qui vous semble le plus intéressant ?
Le plus intéressant, vous ne l'avez pas donné. C'est 8 sur 10 aussi qui continue de penser que le gouvernement ira jusqu'au bout.
Ouais.
Et je pense que c'est le plus fort ferment de démobilisation. Au bout d'un moment, les gens se diront, bon ben voilà, ils bougeront pas, donc on arrête.
Jean-Marie. C'est le principal rempart, parce que ça veut dire qu'au fond, les Français ont intégré la règle du jeu. La règle du jeu, c'est que s'il y a un vote du Parlement, si tout est validé, le gouvernement est fondé à appliquer sa loi. Et la loi s'applique, même si j'y suis hostile, et même si l'addition se paiera lors des prochaines échéances électorales.
Voilà.
Qui est vraiment le retour à la règle du jeu, et non plus le recours à la violence ou quoi que ce soit d'autre.
Dans les élections et dans la capacité d'Emmanuel Macron à lancer d'autres chantiers et à faire autre chose, ça laissera des traces quand même, un conflit. conflit d'une telle dureté.
Merci Cécile, merci Jean-Marie. Le prochain sondage, eh bien, je vous donnerai tous les chiffres comme ça. J'éviterai d'oublier le plus important. Esprit libre avec Cécile Cornudet et Jean-Marie Colombani, comme tous les vendredis sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h57 dans un instant. Eh bien, c'est l'essentiel de l'actualité.